Dominique Bonnat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes femme de lettres, journaliste et critique littéraire, mais surtout auteur et écrivain. Prix Renaudot en 98 pour Le Manuscrit de Porrebben et prix Interallié en 92 pour Malika. Mais vous êtes surtout célèbre pour vos biographies, je peux pas tout citer. Et là, vous publiez chez Grasset un ouvrage à mi-chemin entre l'essai, parce qu'il est parfois qualifié comme tel, et la biographie. Ça s'appelle Colette et les siennes. Le point de départ, c'est l'été 14. Il n'y a plus d'hommes dans Paris qui sont partis à la guerre. Et Colette accueille ses trois meilleurs amis dans sa maison parisienne qu'elle appelle le Phalanstère. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette histoire ?
Ce qui m'a intéressé dans cette histoire, c'est de raconter quatre destins de femmes liées les unes aux autres, si liées qu'elles resteront d'ailleurs jusqu'à leur mort. Ce sont quatre meilleures amies au monde, Colette, Marguerite Moreno, qui est une grande comédienne de théâtre, Musidora, qui sera la première vampe du cinéma muet, et puis une femme qu'on a complètement oubliée aujourd'hui, qui s'appelle Annie de Pen, et qui était journaliste, grand reporter de guerre, qui sera la première femme à descendre dans les tranchées. Donc c'est un petit moment, une enclave dans la vie de Colette, mais à partir de là, bien sûr, je vais tisser les quatre destins des quatre amis.
Autre chose qui m'a vraiment étonnée, Colette est mariée au baron Henri de Jouvenel, c'est quelqu'un qui a une position, il est journaliste, il est dans un journal très important, et il est quand même envoyé au front, il n'y avait pas de planqué.
Ah non, il n'y avait pas de planqué en 14, ça c'est certain, tous les hommes allaient se battre. Et il y avait un climat qu'on ne connaît évidemment plus du tout aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait un patriotisme qui était évident, même les femmes sont patriotes, même Colette. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'été 1914 à Paris, il n'y a plus du tout d'hommes. Tous ceux qui sont en âge de se battre sont partis.
Alors, vous parlez à mots couverts de l'homosexualité, et vous dites... Alors,
pas à mots couverts,
ah, si vous dites, couvert. Elle va à Lesbos, enfin par des périphrases.
Oh non, je crois pas. Je consacre vraiment un chapitre aux amours de Colette pour des femmes, pour ses amies. Elle a été très amoureuse de certaines femmes, Colette.
Oui.
Et puis, elle a vécu en couple pendant 5 ans avec Marquise de Belbeuf, Mathilde de Morny, qui justement portait des pantalons, s'habillait en homme, que tout le monde appelait Oncle Max, très méchamment, mais que Colette appelait du doux nom de Missy. Et pendant quelques années, Colette a même porté un collier sur lequel étaient gravés ces mots « J'appartiens à Missy ».
Vous connaissez ce qui arrive parfois quand l'inconscient lit un tout petit peu trop vite. J'ai pris votre livre à un moment donné et puis j'ai pris le B de votre nom qui a glissé et Colette et les siennes est devenue Colette et lesbienne.
Ah oui, alors là...
Est-ce que vous y aviez pensé?
Non, vous êtes très imaginatif. Mais si vous voulez, on ne peut pas dire qu'elle ne l'est pas. Mais on ne peut pas dire non plus qu'elle l'est tout à fait. Pas d'étiquette pour Colette.
Il y a aussi des incartades, puisqu'elle a une histoire d'amour avec Bertrand de Jouvenel, qui est le fils de son mari. Donc pendant 5 ans, non seulement ça peut s'apparenter à de l'inceste, mais c'est son beau-fils, mais surtout au détournement de mineurs. Chacun des deux avait quel âge ?
Ah, il y avait une grande différence d'âge. Colette avait l'âge d'être la mère de Bertrand de Jouvenel.
Il avait quel âge, lui ?
Il avait 17 ans. Quand il est venu pour la première fois dans la maison de Bretagne, une maison où les fantasmes de Colette peuvent vraiment se déployer.
Ah bah ça va au-delà du fantasme. Si une femme couche avec le fils de son mari, qui lui-même a 17 ans...
C'est une femme sans tabou. Il faut s'habituer avec Colette de voir une vie très décontractée, une vie sans culpabilité. Il n'y a pas vraiment de morale chez Colette. Elle a aimé Bertrand de Jouvenel, il était plus jeune qu'elle. Et quoi donc ? Elle a été heureuse avec lui.
Alors, c'est pas une blague, Dominique Bonnat. Vous serez le 1er avril dans Lyon, dans la maison de Colette.
Oui.
C'est où exactement ? Et vous allez faire quoi ?
Je vais parler dans ce qui est devenu le musée de Colette, à quelques pas de sa maison natale, à Saint-Sauveur en Puisaye. Je reviens sur les traces de l'enfance, Colette ayant adoré son enfance.
Qu'est-ce que vous allez leur raconter ? Parce que j'imagine que les gens qui viennent là sont déjà fans, déjà connaisseurs.
Oui.
Qu'allez-vous leur raconter qu'ils ignoraient ?
Je pense qu'ils savent tout sur Colette là-bas, ils ont le culte de Colette. Mais justement, nous allons communier dans le souvenir de Colette à Saint-Sauveur en Puisaye.
Dominique Bonnat avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. La romancière et femme de lettres et académicienne Dominique Bonnat avec nous, qui vient de publier chez Grasset « Colette et les siennes ». Vous appelez ça comment ? C'est une biographie ? C'est romancé ?
Non, c'est pas du tout romancé. J'aime écrire des biographies et dans la biographie, ce que j'aime, c'est l'exactitude de la documentation, des renseignements. Mais j'aime aussi beaucoup le récit dans la biographie. Donc je n'écris pas des biographies universitaires, mais pas non plus des biographies romancées.
Je vais vous citer, page 128. Elle a dit « Les suffragettes me dégoûtent ». Savez-vous ce qu'elles méritent, les suffragettes, le fouet et le harem ?
Oui, Elle parle, en effet, en son nom, disons.
Elle l'a vraiment dit.
Elle l'a vraiment dit et même écrit. Ce n'est pas que Colette s'oppose aux droits de la femme, mais elle s'oppose à un certain militantisme. Ces femmes qui défilaient dans les rues, qu'on appelle les suffragettes, et qui portaient des bannières au nom des droits de la femme. Au fond, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Colette, c'est pas une femme politique. C'est pas une militante. C'est pas quelqu'un qui écrit des livres de philosophie ou des traités de politique. C'est vraiment la romancière. Ce qui l'intéresse, elle, c'est le tissu de la vie.
Pour ce livre, Il n'y a qu'un amour, vous aviez travaillé notamment à partir de la correspondance de Simone de Caillavet et vous avez aussi beaucoup utilisé la correspondance dans Colette et les siennes. Est-ce que vous pourriez écrire la biographie de quelqu'un né avec Internet ?
Je crois que ce qui est important pour une biographie, c'est en effet de retrouver le souvenir à vif. Et le souvenir à vif, il était autrefois dans les lettres. Bon, maintenant, dans les conversations téléphoniques, il sera perdu, c'est évident. Peut-être que sur Internet, il y aura quand même des traces de ceci ou de cela.
Oh, mais les gens vont pas envoyer des copies de leurs mails pour faire plaisir aux biographes au 24e siècle.
Mais c'est dommage parce que comme ça, on n'aura plus aucun matériau pour travailler.
Oh, attendez, c'est dommage. Voudriez mettre dans vos dernières volontés le fait que tous vos mails soient rendus publics ensuite ?
Non, mais vous savez, en même temps, ces lettres, qui normalement sont une correspondance privée, appelées à rester dans le cercle de la vie privée, souvent ces documents survivent, restent dans des armoires, traversent les générations.
Non, alors j'ai mal posé ma question. Une des fondations de votre travail, c'est la correspondance. Est-ce qu'il n'y a pas eu, entre le 16e et le 20e, avant l'invention d'Internet, un âge d'or pour le métier que vous faites ?
Il est certain qu'aujourd'hui, les informations sont tellement volatiles, c'est dans l'instant, c'est fugitif, rien ne reste. On aura des photos, on aura des documents sonores quand même, mais cette correspondance, c'est-à-dire ce dialogue dans l'intime, au fond, tout ça va s'évaporer.
Tout à fait autre chose, vous êtes une académicienne, vous avez été élue à l'Académie française le 18 avril 2013, à la troisième tentative. Il faut faire campagne pour être élue, il faut rencontrer et écrire aux académiciens, peut-être même leur envoyer des SMS. Pourquoi vous êtes lancée dans cette campagne ?
Je rêvais d'être à l'Académie.
Ah oui ? Depuis quel âge ?
Oh non, tard. Quand même pas à 12 ans et 13 ans, c'est évident. Mais c'est venu en écrivant des livres et je me suis dit, bon, ce serait formidable de faire partie de ce club. L'Académie française est un des endroits où on peut vraiment partager sa passion de la langue française, sa passion des livres, avec d'autres écrivains.
Vous travaillez le jeudi aux séances du dictionnaire ?
Oui.
Alors, vous avez donné quelques détails à l'hebdomadaire Elle qui m'ont frappé. Vous aviez dit, nous venons de dépasser usufruit. Et lorsque nous en aurons terminé avec la lettre Z, nous reprendrons au début. Mais une fois qu'on est à Z, on ne publie pas le dictionnaire ?
Ah si, le dictionnaire est publié, mais il est publié de loin en loin. Parce que, évidemment, c'est très long de travailler chaque mot du dictionnaire. Et aucun académicien ne peut aller de A à Z.
Là, vous en êtes où ? À quel mot ?
On en est au verbe « venir ». Et il y en a au moins 4 pages.
Ah, j'imagine. Et il y en a même dans votre livre. Elles viennent souvent, les femmes, dans leur maison.
Oui, le verbe « venir » est important dans la vie.
Dans son discours de réception, c'est lui qui était chargé de faire votre éloge, l'académicien Jean-Christophe Ruffin a fait rire la vénérable assemblée en disant « On chercherait vainement dans votre œuvre, c'est la vôtre, une biographie de Madame de Gaulle ». Et oui, pourquoi ?
Oui, c'est une boutade qu'il a lancée parce qu'il a remarqué que les personnages féminins de mes livres étaient plus coquins que sérieux, plus émancipés que sages, que, évidemment, entre Gala, les diverses amours d'André Mauroy, les sœurs Hérédia et maintenant Colette, on était très loin de Madame de Gaulle, sans doute.
Tant pis pour tante Yvonne, Dominique Bonnat avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure. Beaucoup de choses que j'ai lues sur vous, Dominique Bonnat de l'Académie française qui vient de publier Colette et les siennes, c'est chez Grasset, mais c'est évidemment pas votre première biographie. Est-il vrai que vous regrettez de ne pas être devenue archéologue ?
Oh, ça c'est tout à fait vrai. J'ai longtemps rêvé d'être archéologue. C'est parce qu'enfant j'avais visité les ruines de Pompéi. Toutes ces vieilles rues, ces maisons détruites, ces corps momifiés m'avaient beaucoup impressionné.
Vous aviez quel âge ?
Oh, j'avais une dizaine d'années.
Et alors ?
Mais au fond je suis pas très loin de l'archéologie, vous savez, dans la biographie.
Vous étiez avec votre grand-mère, si le mythe fondateur est réel, et vous dites qu'elle a refusé de vous laisser entrer dans certaines maisons.
Oui, à l'époque, à Pompéi, il y avait des salles réservées aux grandes personnes, comme on les appelait. Ma grand-mère est entrée dans la salle. Quand elle est ressortie, elle était toute rouge, toute gênée. Et je n'ai compris que plusieurs années après, en allant visiter évidemment ces salles où il y avait des représentations de banquets à la romaine, avec des femmes nues, des orgies, etc. Ma grand-mère en avait été sans doute bouleversée.
Est-il vrai, tout à fait autre chose, que vous avez un tout petit bureau ?
Longtemps, j'ai pas eu de bureau du tout. Je travaillais sur la table de la cuisine.
Et maintenant,
mais maintenant, j'ai un petit bureau chez moi. J'ai une pièce pour moi.
Est-il vrai qu'il est entièrement jaune ?
Oui, il est jaune, couleur soleil.
Pourquoi ?
Parce qu'à Paris, il n'y a pas de soleil et que, étant une méridionale, ça me manquait. C'est un petit bureau sur cours, un peu triste. Et grâce à ce jaune, il est très très joyeux.
Ah bon, il est sur cours et un peu triste ?
Non, il l'est pas puisqu'il est jaune.
Parce que je veux dire, j'ai eu un autre son de cloche dans Gala. Est-il vrai que, je les cite, vous avez un vaste appartement dans le 7e arrondissement de Paris qui offre une vue panoramique sur la Tour Eiffel ?
On peut voir la Tour Eiffel de chez moi, c'est exact.
Ben, c'est pas une vue panoramique, c'est pas la même chose.
Non, panoramique, on voit la Tour Eiffel.
Est-il vrai que chez vous, il y a des toiles de maître ?
Il y a des peintures choisies avec amour par des artistes qui m'intéressent. Oui, j'aime la peinture, mon mari aussi aime la peinture, donc vraiment la présence artistique, c'est très important pour moi. Je pourrais pas imaginer vivre dans un appartement avec des murs nus, vous voyez. Il faut des livres et des peintures.
Ah oui, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir des Goya, des Velázquez et des Rembrandt.
Ah non, il n'y a pas de Goya et de Velázquez à la maison.
Est-il vrai que vous êtes passionné par les histoires de fées et de sorcières ?
Oui, j'ai écrit une thèse quand j'étais étudiante sur les fées et les sorcières dans la littérature des 12e et 13e siècles.
Oui, mais ça, c'est pas la même chose.
C'était ma spécialité, le Moyen-Âge, à l'université. J'ai toujours beaucoup aimé les livres sur le Moyen-Âge.
Est-ce qu'encore maintenant, vous lisez des histoires de fées et de sorcières ?
Je n'en lis plus, mais d'une certaine façon, je vois toujours les êtres à travers ce prisme, les fées et les sorcières. Il y a les êtres bénéfiques et les êtres maléfiques. Et dans la vie, ça marche assez bien.
Est-il vrai que pour l'Académie française, vous avez tenu à avoir une épée, même si ce n'est pas obligatoire pour les femmes ?
Oui, je tenais à avoir cette épée parce que c'est un des symboles de l'académicien, un des fiers symboles de l'académie. L'épée veut dire simplement que l'académicien mène un combat, et un combat pour défendre la langue française. Bien sûr, on ne va pas se battre avec cette épée, mais l'épée est là pour nous rappeler ce premier devoir, défendre la langue française.
Est-il vrai que vous aimez lire des choses horribles pour calmer votre anxiété ?
Je lis beaucoup de romans policiers.
C'est pas horrible, les romans policiers ?
Ah, ça fait peur quelquefois, oui.
Ah bon ?
Ah oui, oui, oui.
La dernière fois que vous avez eu peur, ça racontait quoi ?
C'est une bande de SDF, en quelque sorte, qui un jour décide de quitter le trottoir, parce que le trottoir est devenu trop dangereux, ça se passe à New York, et ils grimpent sur le sommet des immeubles. Et ils vivent uniquement sur les immeubles. Ils sautent d'un immeuble à l'autre en prenant des risques énormes, certains d'ailleurs se tuent au passage, et là, ils décident de s'en prendre à un monstre qui a tué de nombreux SDF et qui habite justement sur le faîte d'un de ces immeubles. Ce monstre, c'est un gardien extrêmement méchant, qui a la haine au cœur et qui a décidé de débarrasser l'humanité des SDF. C'est un magnifique livre, vraiment.
Vous savez ce qui me frappe, Dominique Bonnat ? C'est que vous en parlez comme si ces gens-là existaient pour de vrai.
Non, mais les livres, c'est la vie. Tout est vrai dans les livres.
Même la fiction.
Ah, oh, surtout la fiction.
Merci beaucoup, Dominique Bonnat, d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.